en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Quelqu'un a dit un jour de Pierre Benoît qu'il aurait pu être le fils de Georges Simenon et de Barbara Cartland. Si la chose semble difficile au regard de la chronologie, elle vaut d'être relevée, ne serait-ce qu'en raison de ses qualités d'artisan, ayant eu parfois recours à des ficelles un peu grosses, avouant un faible pour des héroïnes exagérément romanesques et un certain goût pour des héros masculins timides et effacés. C'est pourtant une injustice de la République des Lettres que d'avoir effacé de sa mémoire l'un des auteurs les plus prolixes de l'entre-deux-guerres et celui dont l'un des romans, Königsmark, fut le premier à intégrer la collection du livre de poche chez Hachette. Albigeois par sa naissance dans la cité cathare en 1886, Pierre Benoît a surtout passé son enfance au Maghreb, en Algérie d'abord et en Tunisie ensuite, là où son père, officier d'active, se trouva longtemps en poste. On le retrouve à Montpellier, au lendemain de son service militaire, étudiant les lettres et l'histoire. Licencié S-Lettres, le jeune homme échouera de peu à l'agrégation en 1910. S'ouvre à lui une carrière dans l'administration, celle d'agent de ce qui était alors le sous-secrétariat aux Beaux-Arts, puis bibliothécaire au ministère de l'Instruction publique, alors clé de voûte du dispositif de formation des élites mis en place par la République des Hussards Noirs. C'est là qu'après la Première Guerre mondiale, il croisera la route d'un certain Jean Poyant, de 2 ans son cadet, les deux hommes ignorant encore qu'ils se retrouveront bien plus tard à l'Académie. De la guerre, la première s'entend, les deux hommes garderont le même souvenir, s'y étant jetés corps et âme dès août 14, animés du sentiment de participer à une guerre sainte, ainsi que Pierre Benoît l'écrivit à sa mère. Le futur romancier devait pourtant en revenir pacifiste convaincu. Ayant participé à la bataille de Charleroi, en portant comme son camarade Jean Poyant la capote bleue et la jupe écarlate des Zouaves, il conservera toute sa vie un souvenir traumatisant de cette expérience. Mais revenons à la carrière de fonctionnaire de Benoît, qui, pour terne qu'elle fût sans doute parfois, eut au moins le mérite de lui laisser le temps d'écrire. Un temps qu'il ne gaspille pas puisque dès 1918, il offre au public son premier roman, Königsmark, inaugurant avec ce coup d'essai un véritable coup de maître au plan éditorial. L'ouvrage se révéla vite un succès, savamment exploité par la maison Hachette, qui venait de trouver là l'un de ses auteurs les plus prolixes, mais aussi les plus lus puisque jamais tirage de Pierre Benoît ne devait dans l'avenir s'éloigner du million d'exemplaires vendus. Sorte de roman picaresque sur fond de Mittel Europa, Königsmark semble à la fois le livret d'une opérette de Franz Lehár et n'est pas dénué d'un certain esprit cocardier. Premier roman, certes, mais pas premier opus puisque l'auteur avait publié, avant-guerre, un recueil de poèmes intitulé « Diadumène », publié grâce à l'entregent d'André Germain, richissime actionnaire du Crédit Lyonnais, ami des arts et époux d'Edmé Daudet, la fille d'Alphonse. Avec Königsmark, l'histoire d'un précepteur français qui débarque dans le grand-duché de Lautenbourg-Detmold, où il ne tarde pas à venir au secours de la jeune et belle souveraine menacée, Pierre Benoît lance un genre qui n'appartient qu'à lui et qui sera sans doute la matrice toujours réalisée de ce que deviendront ses célèbres romans. Faisant fi de toute vraisemblance, mais avec une langue fluide et pleine d'images, il inaugure aussi ce culte du « A ». C'est la lettre A qu'il choisira pour débuter le prénom de toutes ses héroïnes à venir. L'ouvrage manquera de peu le prix Goncourt, mais comme on l'a dit tout à l'heure, sera le premier à intégrer plus tard la collection Poche. 2 ans plus tard paraît L'Atlantide, un roman fortement nourri par son enfance au Maghreb. En décernant à ce jeune auteur son grand prix de littérature, l'Académie française adressait à Pierre Benoît, par l'entremise de Barrès, un signe de reconnaissance qu'il sut interpréter comme il convenait, se réservant de poser sa candidature quand le moment serait venu. Il restait d'abord au jeune romancier à se débarrasser de ses oripeaux de fonctionnaire à l'instruction publique, ce qu'il fera en 1922 pour endosser définitivement celui de littérateur. Alors, au rythme d'un livre par an, Pierre Benoît publie ce que le public attend de lui. C'est d'abord Le Lac Salé, puis Les Suppliantes, puis encore Mademoiselle de la Ferté, La Châtelaine du Liban, Le Puits de Jacob, Le Soleil de Minuit ou bien encore Le Dernier des Sous-Séracs. Chacun de ces romans, qui tous possèdent le même nombre de pages, exalte le voyage et l'ailleurs lointain, fascinant et mystérieux, annonciateur de mille énigmes et d'autant de mystères. Chacune de ses œuvres présente une héroïne exaltée, sorte d'Amazone troublante que l'auteur qualifiait lui-même de bacchante et qui lui attira plus d'une fois les foudres de la presse catholique, pourtant habituellement favorable à cet auteur en raison de ses convictions maurrassiennes et monarchistes. Habile émule de Dumas et de Balzac, Pierre Benoît aime à faire courir le lecteur à perdre haleine. C'est qu'on se perd dans un dédale d'intrigues où, encore une fois, on a cure de toute vraisemblance et où seul compte l'amour que le héros voue à sa belle, dans un décor sans cesse renouvelé, où les personnages secondaires muent sans cesse à la manière de Chiribibi ou de François Vidocq. Personnage connu de ses contemporains pour son amour des femmes, ayant la reconnaissance de ses pairs dans un milieu où la jalousie n'est pourtant jamais très loin, Pierre Benoît est élu à l'Académie française le 11 juin 1931 par 18 voix au second tour, au siège vacant par la mort de Georges de Portoriche. Le nouvel académicien, qui a aussi derrière lui une carrière de grand reporter pour Paris Soir et pour L'Intrant, ne manque pas d'humour. Ainsi, au lendemain de 1918, ce grand voyageur a créé avec ses compagnons Francis Carco, Henri Béraud, Roland Dorgelès ou encore Pierre Macorlan une association baptisée le Bassin de Radoub, qui s'était assignée pour mission d'offrir à l'auteur de ce qui serait jugé le plus mauvais roman de l'année un billet de chemin de fer permettant à l'impétrant de rentrer définitivement dans sa terre natale. L'esprit facétieux de Pierre Benoît s'exhale encore dans la réponse qu'il fait à André-François Poncé quand il est chargé de le recevoir sous la coupole en janvier 1953. Le grand voyageur que ses droits d'auteur ont rendu riche ne peut s'empêcher de déplorer l'extrême pauvreté auquel sont réduits les 40 dont l'indemnité mensuelle a pourtant été augmentée quelques années auparavant, passant de 4 à 600 francs de l'époque, grâce justement à François Poncé, alors sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Et voici comment Pierre Benoît décrit le train de vie des infortunés académiciens. Je le cite. Nous sommes réduits à des subterfuges de fils de famille aux abois quand il s'agit d'équilibrer le budget de cette institution que tout le monde croit richissime. Les gens seraient bien étonnés s'ils apprenaient que nous ne disposons, en tout et pour tout, que d'une seule automobile, ce qui a pour effet, les jours de séance, de transformer notre vénéré secrétaire perpétuel en une sorte de garagiste éperdu, misérable voiture qui n'a même pas droit à cette cocarde tricolore que nous continuons néanmoins à arborer sur nos bicornes avec le plus touchant loyalisme. Les broderies qui nous enjolivent, combien sont-ils parmi nous qui seraient encore en mesure de s'en offrir de nouvelles aujourd'hui? Comme l'Académie n'a littéralement plus de quoi acquitter les frais de voyage de ses membres, il arrive, fait beaucoup plus grave, qu'elle n'est plus représentée lors de la plupart des manifestations auxquelles elle est invitée à l'étranger, là où nous désirerions pourtant être, là où nous le devrions. Retrouvons Pierre Benoît, l'auteur de l'Atlantide, de la Châtelaine du Liban et de nombreux autres romans à succès, Grand Prix de l'Académie française en 1921. Reçu le 24 novembre 1932 au 6e fauteuil par Henri de Régnier, Pierre Benoît doit non seulement prononcer le panégyrique de son prédécesseur, auteur de pièces à succès, mais aussi celui d'Ernest Lavis. En effet, pour sa réception sous la coupole, Portoriche, son prédécesseur, n'avait prévu de prononcer quelques lignes à la mémoire du grammairien auquel il succédait. Refusant, malgré les admonestations du secrétaire perpétuel, de revoir sa copie, Portoriche devait mourir sans jamais avoir siégé parmi les 40. Il est plaisant de voir Benoît succéder à Henri de Régnier, l'esprit de cuirassier qui avait tant choqué le comte Albert Demain quand il lui était revenu d'accueillir le poète sous la coupole, n'est pas pour déplaire à l'auteur de Königsmark. Éternel voyageur, l'élection de Pierre Benoît Kekonti ne parviendra pas à l'arrimer solidement au bord de la Seine. On le retrouve en Éthiopie en 1935, où il est parti interviewer le Négus, puis à Rome, où il rencontre Mussolini. On le retrouve en Allemagne où il décroche un entretien avec Göring qui lui parle de ses collections d'art, puis dans l'Autriche, devenu le satellite de l'Allemagne après l'Anschluss, Anschluss auquel Pierre Benoît a personnellement assisté depuis Vienne. Admirateur de l'aventure coloniale dont les récits de son père ont nourri son enfance et son adolescence, Pierre Benoît ne manque jamais une occasion de dire tout le bien qu'il pense de cette épopée dans ses romans. À la fin des années 1930, l'académicien est un homme à qui tout sourit. Il est le président de la Société des gens de lettres. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, par Pabst en Allemagne, Epstein en France, et chaque nouvel opus est un best-seller. En 1938, il réussit un coup de maître en faisant élire à l'Académie française son maître à penser, Charles Maurras, alors à la veille de redevenir fréquentable avec la négociation d'une prochaine levée de la condamnation de l'Action française par le pape. François Mauriac, qui fut le témoin de cette campagne, l'a décrit ainsi dans son bloc-notes, je le cite. « La honte que je ressentis me déniaisa d'un seul coup. J'ouvris les yeux, je regardai autour de moi, j'observai de plus près cette assemblée auguste et je compris. C'était notre gentil Pierre Benoît, si gentil, si rusé, né pour l'intrigue et qui en 15 jours avait noué les fils. » C'était l'élection de Charles Maurras que ses disciples préparaient dans un climat politique fiévreux en ces années d'avant le désastre. François Mauriac n'a sans doute pas tout à fait tort en évoquant l'amical complot qui s'était donné pour but de faire élire le chef de file des Camelots du roi, déjà candidat malheureux à l'Académie en 1929. L'élection de Jacques Bainville, quelques mois avant celle de Maurras, semble indiquer que le moment était venu de présenter le vieux maître sous la coupole. Les confidences de l'auteur de Thérèse d'Esquerou traduisent aussi la méfiance qu'il éprouve pour Benoît. Monarchiste, celui-ci n'a jamais fait mystère de son anti-parlementarisme et l'expérience du Front populaire ne lui inspirait que dégoût. Pierre Benoît ne s'en cache pas, le 23 avril 1936, lorsqu'il lui revient d'accueillir sous la coupole son ami diplomate Claude Farrère, comme on peut en juger. Je cite Benoît. Je suis de ceux qui croient qu'il ne faut pas trop exiger des pauvres hommes, ni leur en vouloir. Ils ont toujours été les mêmes, à toutes les époques de l'humanité, ni meilleurs, ni pires. Et c'est ce qui rend si vaine et si enfantine la croyance en l'idée de progrès. Dans le domaine de la politique, seules les institutions leur permettent de fournir la preuve de ce dont ils sont capables. Et il n'apparaît évidemment pas que nos institutions, sous ce rapport, constituent le terroir rêvé. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Benoît est partagé entre sa germanophilie traditionnelle et l'effarement que lui inspire la déroute française au lendemain de la campagne de France. L'ancien combattant accueille d'abord avec bienveillance l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, son confrère de l'Académie française. Pourtant, c'est par un refus qu'il accueille en 1941 la proposition qui lui est faite de prendre la direction de la Comédie française. Un geste qui ne suffira pourtant pas pour lui éviter d'être arrêté à la Libération. Le dossier pourtant est assez mince. L'homme vit replié sur ses terres du Quercy, où jusqu'en novembre 1942 la guerre semblait bien loin. Sans doute, le succès de ses livres et l'adaptation de 2 films tournés malgré la censure allemande ont-ils joué en sa défaveur. Emprisonné à Fresnes en septembre 1944, Pierre Benoît n'est libéré qu'au bout d'un an, en avril 1945. On prétend que Louis Aragon lui-même est intervenu en sa faveur et il est certain que son ancien collègue de l'instruction publique, Jean Poyon, a lui aussi plaidé sa cause. Il n'empêche, cette expérience de la prison à Fresnes marquera toujours l'auteur de La Châtelaine du Liban. Nous retrouvons Pierre Benoît, auteur à succès, élu à l'Académie française en 1931 et mis à mal, au moment de la Libération, en 1944, malgré un dossier somme toute assez mince. En 1950, la parution d'un nouveau roman dont l'action se situe en Corse, Agriate, permet à l'auteur de renouer avec le succès Elle vient opportunément le venger des avanies qu'il a subies 4 ans plus tôt. Entre-temps, le romancier s'est marié, soucieux de son propre aveu de mettre un terme aux aventures sans lendemain. Les années d'après-guerre seront néanmoins moins favorables à Pierre Benoît. Certes, ce croyant bénéficie désormais du soutien de la presse catholique, que ses frasques avaient souvent choqué. On raconte que l'ambassadeur Paul Claudel, alors en poste au Japon, avait même refusé de le recevoir en apprenant que le romancier voyageait avec une aventurière. Mais surtout, Pierre Benoît s'est toujours tenu éloigné des recherches de ses contemporains en littérature, que ce soit Proust ou Céline, Joyce pour ne citer qu'eux. Son œuvre, influencée à ses débuts par celle de Paul Bourget ou Charles Maurras, a désormais vieilli, tout comme son public, et ses recettes sont trop connues. Il n'empêche, l'auteur de Königsmark tente un nouveau coup d'éclat. Il décide de faire entrer à l'Académie un romancier de ses amis qui partage ses convictions nettement conservatrices. C'est en apprenant que le général de Gaulle compte mettre son veto à la candidature de Paul Morand, à peine rentré de son exil en Suisse, que Pierre Benoît décide de remettre sa démission au secrétaire perpétuel. Celle-ci est aussitôt refusée puisque les statuts de l'Académie française ne prévoient pas cette éventualité. On sait que Morand sera finalement élu en 1968 sans que le général de Gaulle s'y oppose. Pierre Benoît ne sera cependant pas le témoin de cette élection. Il meurt le 3 mars 1962. C'est son ancien collègue de l'instruction publique, Jean Poyan, de 2 ans son cadet, qui lui succède au 6e fauteuil. L'élection de l'éminence grise des lettres françaises a pu surprendre, jusqu'à l'impétrant lui-même, puisqu'elle intervient à l'âge vénérable de 80 ans. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, résistant durant la Deuxième, Poyan est reçu sous la coupole le 27 février 1964. Dans l'hommage qu'il rend à son prédécesseur, il évoque la querelle qui l'opposait jadis à son collègue du ministère au sujet, je cite, « du recours à l'homme providentiel, à même de sauver la France de la médiocrité de son personnel politique durant l'entre-deux-guerres ». À rebours, Poyan voit en De Gaulle son grand homme. Il se souvient que le cœur de Pierre Benoît penchait, lui, davantage pour la restauration monarchique. Mais le directeur de la collection de la Pléiade chez Gallimard livre ensuite un très beau portrait de son prédécesseur au 6e fauteuil, le décrivant ainsi, je cite. « Quand le conteur arabe a déployé son tapis au beau milieu de la place, les habitants du village se pressent en cercle pour l'écouter. Il n'arrive jamais, si les explorateurs n'ont pas menti, qu'on se permette de l'interrompre pour lui faire observer que l'histoire est déjà connue ou qu'il emploie trop de clichés ou de lieux communs. Non. Personne ne lui demande d'avoir une vue du monde originale, ni d'user d'expressions que l'on n'ait jamais entendues. Plus l'histoire contient de clichés, et plus les assistants la trouvent émouvante. Mieux elle est connue, et plus ils sont impatients d'en apprendre la fin. Plus elle est invraisemblable, et mieux ils s'y reconnaissent. » Et Jean Poyon de s'interroger sur ce qui fait le succès de deux romans, quand le premier est original et le second rempli de lieux communs. Bien entendu, pour le nouvel occupant du 6e fauteuil, Pierre Benoît relève des romanciers qui écrivent des ouvrages de la première catégorie, parce qu'il avait du professionnel, je cite, « l'assurance et l'esprit de décision ». Et Poyan de décrire ainsi la méthode de Pierre Benoît, une méthode mise au point dès la rédaction de son premier roman « Königsmark ». C'était une méthode qui négligeait l'imagination, ou plutôt qui la laissait mener son jeu toute seule, mais qui faisait appel au travail seul, au travail sur note et sur fiche. Il avait encore l'ironie, car il suffit d'être prêt à traiter n'importe quel thème pour éprouver à l'égard de sujets si bien dressés, si obéissants, un sentiment de supériorité et presque de dédain. Toutes les farces et tous les canulars sont aussitôt de mise, ajoute encore Jean Poyan, qui ajoute « On convient de donner à ces héroïnes un nom qui commence par la lettre A ». On fera jouer à Gambetta un rôle néfaste dans chaque roman, se passa-t-il en Chine, un rôle absurde ou néfaste. Il arrive que les principaux personnages se voient en cours de récit métamorphosés. La comtesse Antiope n'est plus la comtesse Antiope, mais une simple femme de chambre. Le professeur suisse se change en policier anglais. Le professeur au Collège de France n'était finalement qu'un étudiant paresseux. Et pourtant l'histoire se poursuit, pourtant elle ne s'arrête pas, et elle n'arrête pas de nous émouvoir. Il semble bien qu'elle possède sa force propre. et Boyant de préciser que la méthode Benoît aurait pu coûter cher à l'auteur de Königsmark. Je cite « C'était rompre avec le parti pris d'observation et de fidélité à la faveur duquel le roman, jusque-là dédaigné, s'était glissé dans votre compagnie. Ce n'étaient ni des romans de mœurs, ni des romans de caractère ou d'analyse psychologique, qu'écrivait Pierre Benoît. Il se trouvait aussi loin de Flaubert que de Stendhal ou Fromentin. » Laissons finalement le mot de la fin à Pierre Benoît lui-même, qui, à ceux qui s'interrogeraient encore sur sa conception du roman, trouveront la réponse dans cet autre extrait de son morceau de réception à Claude Farrère en 1936. Je cite Benoît. « Le roman est une œuvre d'un genre déterminé, un genre qui a ses règles strictes. Dans la hiérarchie des ouvrages de l'esprit, donnez-lui la place qu'il vous plaira, la dernière si vous voulez, mais laissez-lui la latitude d'être fidèle au but qu'il poursuit, aux moyens qu'il emploie, en dehors desquels il est autre chose, quelque chose de beaucoup mieux peut-être, mais quelque chose qui n'est plus lui. Il faut avant tout qu'il soit un récit pourvu, autant que possible, d'un commencement, d'un milieu et d'une fin. Il suffisait d'y penser. »